Voilà, donc pourquoi nous intéresser à la masculinité? Parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'actualité ces derniers temps, il y a quelques années maintenant, hein, les hommes, la société n'offre plus, il me semble, hein, de personnes qui puissent être des modèles masculins, qui soient des modèles de référence sur lesquels voilà, les gens qui grandissent, surtout les garçons, puissent se référer pour des personnes à imiter dans la société. Il y a peut-être, vous m'avez entendu discuter il y a dans les temps un petit peu en arrière là, de regretter ce temps où il y avait des figures. Hein, et je citais comme figure, ben, on avait l'abbé Pierre par exemple tous les ans, voilà, pour penser à la générosité, pour penser à prendre soin des pauvres. Et puis là, de nouveau, ces derniers temps, vous avez vu ce qui est devenu l'image de l'abbé Pierre, qui était une des personnalités les préférées des Français, et les scandales qui se sont accumulés, accumulés, accumulés. Et le cas particulier se présentant comme une généralité, un petit peu, tellement ça tape fort. Alors, ce serait bien de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'ordre. Du moins de se interroger la Bible, mais qu'est-ce que c'est un homme finalement? Qu'est-ce que c'est un homme? Et où est-ce que, dans quelle direction on doit aller, sur quoi on doit veiller? Donc c'est quand même un gros travail et ça demande du temps. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça se retarde un petit peu, le démarrage de cette série de prédications, mais ça va venir. En attendant, donc, je vous propose un sujet qui n'est pas si voisin que cela de ce thème. Et je vous invite à rejoindre le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. C'est rare qu'on utilise, bon, il y a longtemps qu'on n'a pas prêché sur ce livre. Et voilà, c'est beaucoup de narration. Acte chapitre 5, et on va voir les versets 1 à 11. Acte chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais en faire la lecture dans la version Second 21. Acte chapitre 5, versets 1 à 11. Cependant, bon, il y a quelque chose avant qu'on verra tout à l'heure. Cependant, nous demande d'aller lire le texte d'avant. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un tel projet? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent cet événement. Alors on dit que pour comprendre un texte, il faut voir ce qu'il y a à côté du texte, le contexte donc. Et alors on va lire ce qu'il y avait un petit peu avant. Verset, chapitre 4 donc, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il s'agit là de la première église de Jérusalem, celle qui avait été fondée après la prédication de Pentecôte. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Ça, c'est ce qui s'est passé avant. Et voilà ce qui se passe après. Environ beaucoup de miracles, verset 12 donc du chapitre 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins s'en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc l'action se passait bien à l'église, au tout début à l'église de Jérusalem. Et on peut dire qu'avant cet événement tragique, ce drame, la vie intérieure de l'église qui est proposée est vraiment magnifique. Vous avez lu ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme, une communauté unie et solidaire. Et puis on voit que avec l'affaire de Barnabas qui change de nom, de Joseph il devient Barnabas, fils d'exhortation. On a derrière tout ça la présentation de nouvelles identités. Chacun se trouve là dans l'église transformé. C'est vraiment, il vivait là une sorte d'idéal. Quand on parle de l'idéal de la vie chrétienne, ben, tout le monde pense à ce texte. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que ça aurait été extraordinaire de vivre cela, de vivre les temps de la première église. Et après ce notre texte tragique, eh bien, on parle beaucoup de l'apôtre, des apôtres et de ce qu'ils ont fait, et de ce qu'ils ont fait unique. C'est comme si ce texte rehausse tout à coup l'autorité des apôtres. Ils sont là sous le portique de Salomon et personne n'ose se joindre à eux. Le peuple les tient en grande estime. Le nombre des chrétiens augmente, il y a du fruit, et la réputation des 12 apôtres dépasse la ville de Jérusalem. Il y a des signes, des prodiges qui se font par l'intermédiaire des apôtres. Et donc, si j'ai donné un titre à mon message, ce sera la deuxième phrase. Dans l'Église, Dieu a donné l'autorité aux apôtres. Et Pierre, qui par ses paroles scelle le destin de Ananias et de Saphira, ça a rehaussé, je pense, considérablement l'autorité des apôtres. Dieu a donné l'autorité aux apôtres. Qu'est-ce qui se passe entre les versets 1 et le verset 11 de ce chapitre qu'on vient de lire? Je vais résumer par cette phrase. Après avoir menti à Dieu sur le montant d'un don, un couple est mort à la parole de l'apôtre Pierre. Voilà ce qui s'est passé. Un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme. Le dictionnaire dit que Ananias, ça signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Un très beau nom à porter. Et Saphira, qu'on pourrait traduire belle comme un saphir. Ananias et Saphira, qui portaient des noms si beaux et ont connu un destin si tragique. Ils semblent avoir voulu imiter Barnabas. Mais là, on voit bien qu'il s'agit d'une contrefaçon. Jésus n'a jamais enseigné la mise en commun des biens. Mais il a enseigné la foi dans un Dieu qui veille sur son peuple comme un père veille sur ses enfants. Je relirai pour nous dans le livre de Matthieu, chapitre 6, l'enseignement de Jésus qui devait inspirer cette communauté. Chapitre 6, versets 19 à 34. Matthieu, je suis dans Marc. Pardon. Le sermon sur la montagne, donc. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Ah, pardon, 19, un peu plus haut. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où le teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc les ténèbres qui sont en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, 30 cm, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existait aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et verset 6, 33, verset qui a été mis en chant de plusieurs manières. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Barnabas était motivé par son amour pour ses frères. Et ses sœurs qui étaient dans l'indigence. Mais quelle était la motivation d'Ananias et Saphira? Le nom d'Ananias, pourtant, lui rappelait que tout appartient à Dieu. Et s'il avait la jouissance d'un chat, c'était une grâce qui lui avait été faite. Ananias et Saphira ont fait semblant. Ils ont été hypocrites. Dans les faits, ils ont menti sur la somme de la vente des champs. Ananias ont menti devant Dieu, qui habite son église. C'est un petit peu comme s'ils avaient été au milieu du temple de Jérusalem, qui représentait à ce moment-là vraiment la présence de Dieu. Et là, à l'intérieur du temple, ils proféraient des mensonges. C'est quelque chose qui n'est pas admissible et qui ne l'a pas été. Le Saint-Esprit semble être une personne et être Dieu dans notre texte. Ce n'est pas un texte de doctrine, mais il est dit, il est écrit, « Tu as menti au Saint-Esprit ». Et dans la même phrase, Pierre ajoute « Tu as menti à Dieu ». Le Saint-Esprit est peut-être la personne la plus effacée de la Trinité, mais elle n'en est pas moins, excusez-moi cette expression, mais si elle est effacée, si elle est peut-être celle qui est attristée, celle qui est plus sensible, elle est aussi celle qui est le plus protégée. Je mets ça entre guillemets. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre l'Esprit, a enseigné Jésus. Et ici, la sentence par rapport à mentir au Saint-Esprit, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Le Saint-Esprit semble être une personne et être Dieu. Dieu semble avoir utilisé l'apôtre Paul pour exercer son jugement. Dieu a choisi que ce jugement se ferait par l'intermédiaire, par la bouche d'un homme, l'apôtre Pierre. Et donc, comme je l'ai dit, l'autorité des apôtres va certainement beaucoup augmenter pendant cette période. L'autorité de l'apôtre va augmenter, des apôtres va augmenter aussi vis-à-vis de tout le monde qui observe cette église de Jérusalem, ce nouvel mouvement qui apparaît au milieu de Jérusalem. Et la crainte de Dieu semble être le résultat de ce jugement qui a été exécuté. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Voilà ce qui s'est passé et qu'est-ce que l'on apprend? On apprend bien sûr que l'amour de l'argent est de la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, et ceux qui s'y sont adonnés se sont éloignés, bien loin, se sont perdus, comme on dit l'apôtre, bien loin de la foi. 1 Timothée 6, 10. L'argent semble pouvoir répondre à tous les besoins, mais c'est faux. Il semble seulement. C'est qu'un instrument pratique avec lequel les hommes se persuadent qu'ils peuvent être égoïstes, qu'ils peuvent être les auteurs de leur propre sécurité. On dit que l'homme est créé pour adorer. Et lorsqu'il refuse d'adorer Dieu, il se fabrique des trucs à lui pour pouvoir les adorer. L'argent est la fausse richesse, la richesse injuste. On a lu dernièrement dans Luc, au chapitre 16. C'est la richesse injuste par excellence, la fausse richesse. Mais est-ce là l'enseignement fondamental de ce texte? Pas vraiment. C'est une belle illustration de cet enseignement de Jésus et des apôtres. On apprend que mentir est mauvais. En Jean 8, 44, vous le savez, Jésus a dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Et notre texte dit que Satan avait complètement rempli le cœur d'Ananias. Peut-on être un croyant? Peut-on avoir goûté à cette église de Jérusalem idéale? Et peut-on même temps voir son cœur se remplir de Satan? Ah ben c'est possible. Apparemment, c'est bien ce qui s'est passé. Pas plus que le diable, le mensonge n'a sa place dans l'Église et dans notre cœur. L'apôtre Paul développe cela dans son lettre aux Éphésiens de façon beaucoup plus douce. Et combien il vaut. Nous avons intérêt à nous attacher aux enseignements des apôtres. Éphésiens 4, 17. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, jointe à la cupidité, allez-y. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est à lui que vous avez été instruit pour vous dépouiller par rapport à votre vie passée, un nouveau nom, une nouvelle identité, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, l'argent, la sécurité qu'il procure, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, Barnabas, un nouveau nom, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, verset 25, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et nous apprenons ainsi que il n'y a plus que Ananias et Saphira qui disent des mensonges dans l'Église. Apparemment, ça devait être quelque chose qui se faisait aussi du temps de l'apôtre Pierre, et peut-être c'est quelque chose qui se pratique aussi aujourd'hui, et même dans ce lieu. Mentir est mauvais. Mais est-ce que c'est l'enseignement fondamental de notre texte? C'est une belle illustration, en tout cas, des fruits du mensonge. Autre chose que l'on apprend, l'homme et sa femme sont responsables devant Dieu. Ananias est désigné par notre texte comme le premier responsable. Et Saphira est co-responsable avec lui. Saphira n'a pas su, ou elle n'a pas pu, ou elle n'a pas voulu empêcher son mari de tricher en racontant un mensonge sur le prix du terrain. Alors, pourquoi? On ne sait pas comment ça s'est passé entre eux. En tout cas, ils vont être solidaires dans le sort et le jugement qui va être prononcé contre eux. Pour revenir à Saphira, et on verra ça quand on va creuser l'identité masculine, que Saphira est une femme et que la femme est créée, elle aussi, par Dieu, et donc en tant que créature, la première à qui elle a rendre compte, c'est à Dieu qui l'a créée. Et on regrette qu'elle n'ait pas dit non. Elle aurait eu la vie sauve, et peut-être elle aurait aussi sauvé son mari avec elle. Mais est-ce que c'est là l'enseignement fondamental du texte? C'est une belle illustration de la co-responsabilité de l'homme et de la femme qu'on retrouve à des endroits stratégiques de la parole de Dieu. Autre enseignement, l'enseignement de Jésus n'est pas contraignant. L'enseignement de Jésus n'est pas contraignant, mais, verset 4 de notre texte, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Si après l'avoir vendu, n'avait-il pas le droit de disposer de son prix? Jésus invite les hommes à le suivre, mais il ne les oblige pas. Ils ne sont pas contraints. Ananias n'aurait pas été montré du doigt s'il n'avait pas vendu son champ. Il n'aurait pas été exclu de l'Église s'il n'en donnait pas la totalité dans l'offrande. Non, c'est quelque chose qui est complètement étranger à la pensée de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de contrainte, de punition par rapport à l'enseignement de Jésus. Comment auraient pu faire Ananias et Saphira? Moi, je vous propose ceci. Ils auraient pu se placer devant Dieu et dire, je n'ai pas la foi, je n'ai pas l'amour du prochain, le même amour du prochain que ton serviteur Barnabas. Mais fais grandir ces choses en moi, fais grandir ces choses dans notre couple. Reçois néanmoins favorablement l'offrande que nous t'apportons. Reçois-la favorablement. Et nous allons le faire dans l'anonymat, comme tu le recommandes également de faire. Et ils auraient pu faire ça. L'enseignement de Jésus n'est pas contraignant, mais n'oublions pas qu'un jour, Dieu nous demandera compte de ce que nous avons fait de notre champ qu'il nous avait confié. Et cela, l'enseignement fondamental du texte, c'est une belle illustration, en tout cas, de ce que l'enseignement de Jésus n'est pas contraignant. C'est une invitation à le suivre, à lui obéir et à être transformé par lui. Mais ce n'est pas une contrainte. Quel est l'enseignement fondamental du texte? Voilà ce que je vous propose. Le Dieu qui conduisait le peuple du temps de l'ancienne alliance vers la terre promise est le même Dieu qui conduit son Église à Jérusalem au premier siècle. Le Dieu de l'ancienne alliance est le même Dieu que celui de la nouvelle alliance. Et ce Dieu, il est saint. C'est un Dieu saint. Vous avez peut-être en mémoire tous les passages de l'ancienne alliance, ces passages qui font trembler, où la sainteté de Dieu s'est manifestée de façon éclatante, et où il y avait des morts, il y avait la terre qui s'ouvrait, des gens qui étaient précipités, et où il y avait des gens mordus par des serpents, et toutes sortes de choses qui révélaient la sainteté de Dieu face à l'endurcissement du cœur du peuple. Ce passage est peut-être un vis-à-vis, il y a son vis-à-vis de l'ancienne alliance dans l'affaire de Acan. Le jugement de Acan, les enfants d'Israël sont là devant Moïse. Josué a pris la suite de Moïse, ils sont devant le Jourdain, ils l'ont traversé à pied sec. Un miracle, ils se retrouvent devant la ville de Jéricho, et là, Dieu leur dit, vous faites, pendant une semaine, vous allez faire le tour, une fois par jour, pendant 6 jours. Le septième jour, vous faites 7 fois le tour, et la muraille va s'écrouler lorsque vous sonnerez la trompette et lorsque vous pousserez le cri. Mais il ajoute, pas de butin pour vous, la totalité est consacrée et dévouée à l'Éternel. Et donc, la personne de Acan, vous savez, il avait vu un beau manteau, il avait vu des pièces d'argent, il avait vu un lingot d'or et il s'était mis ça de côté. Il avait gardé pour lui. Exactement comme Ananias et Saphira, ils avaient gardé pour eux. Et donc, il y a eu un jugement qui est tombé sur Acan, une mort lapidée. Par lapidation. Et la conquête de Canaan a pu se poursuivre. J'ai oublié de mentionner le fait qu'après cette désobéissance de Acan, cette convoitise qu'il avait eue, l'ensemble du peuple a échoué. Sa progression a été stoppée. Ils ont été en échec devant la ville de Haï, qui les a vaincus. C'était incompréhensible. L'explication a été donnée par Dieu. Acan avait gardé quelque chose de Dieu pour lui. Dieu est saint. Dieu est saint et dans l'Église, il a donné l'autorité aux apôtres. Dieu est saint et c'est le même Dieu et la même sainteté dans son Église maintenant que ce qu'elle était à l'époque. Comment est-ce que ces choses-là s'appliquent pour aujourd'hui? Dieu n'a pas changé, il est saint. Je ne sais pas quelle heure il est. On va écouter. Bon, il y a 4 ans de ça, ça semble très loin. Il y a 4 ans de ça, on était dans la crise du Covid à ce moment-là. On était en plein dedans. Et l'église de Mulhouse avait été. Je ne vais pas dire mise à l'honneur, mais en tout cas, elle avait émergé là dans les trucs des médias. Accusé, vous savez, d'avoir propagé le virus, ces chrétiens qui propageaient le virus du Covid. Et tout ça a été faux, bien sûr. Mais il n'empêche que l'Église a été, dans la réalité, durement touchée, durement impactée par le Covid. Et son pasteur principal, Samuel Peterson. Et donc. Je voudrais vous repasser, quand il a sorti de l'hôpital, il a eu un message pour les chrétiens. Et je voudrais vous repasser ce message maintenant.